Vous écoutez l'épisode numéro 38 de l'Eclectic Show, un podcast qui traite de life hacking, de technologie et de mes découvertes. Aujourd'hui, on parle de la matrice d'Eisenhower. Alors, bonne émission. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'Eclectic Show, je suis Mathieu, votre animateur, et si c'est la première fois que vous m'écoutez, ben merci de me rejoindre. L'émission est produite aux deux semaines, enfin j'aimerais la produire aux deux semaines. Les notes de l'émission et les commentaires se retrouvent sur le site profduweb.com, profduweb.com. Le lien pour y accéder ou réagir directement à cet épisode-là se retrouve dans les notes de l'émission. Vous pouvez cliquer directement et arriver aux commentaires. Revenez souvent, n'hésitez pas à vous ajouter, à nous ajouter à votre lecteur de podcast favori et pour ne rien manquer des prochaines émissions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Facebook et un peu partout sur Internet. Allez, on débute l'émission tout de suite avec la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower? Alors, la matrice d'Eisenhower a été inventée, en fait, à partir du même monsieur, le 34... En fait, Eisenhower, c'est le 34 président des États-Unis d'Amérique, et il avait déclaré une fois « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. » À partir de ce qu'il avait déclaré, il y a une matrice qui a été inventée, et pour vous l'expliquer, pour vous l'imager, puisque c'est un podcast audio... Prenez une espèce de matrice, un tableau, d'une part, une graphique. D'une part, sur la ligne des abscisses, des X, à partir de votre gauche à votre droite, vous allez faire une ligne sur l'importance. De gauche à droite, l'importance. De bas en haut, en fait, vous allez prendre une ligne, vous allez faire la ligne des urgences. Évidemment, ça va vous donner un graphique. Tout ce qui va être, en fait, une fenêtre divisée en quatre. Tout ce qui va être important et urgent va être d'un côté. Tout ce qui va être urgent mais pas important va être d'un autre. Tout ce qui va être pas urgent et ni important va être à un autre endroit. Et tout ce qui va être important mais pas urgent va être aussi divisé. Grosso modo, ça se divise un peu comme ça. Évidemment, je vous mets les notes dans les notes de l'émission. Pour ceux qui ont accès, vous irez voir la matrice d'Eisenhower, comment elle est faite. Et j'ai trouvé aussi sur le site l'efficacité professionnelle, un article qui m'a vraiment inspiré pour faire cette émission-là et qui va me motiver. Il y a certaines réflexions que je vais carrément reprendre, mais vous aurez les liens là-dedans. L'article a été fait par, que je retrouve l'auteur pour ne pas le mettre, Pascal Bélorger. Ça a été écrit le 26 juin 2017. C'est donc très récent. Alors, grosso modo, si on repart du principe qu'on a une espèce de matrice divisée en quatre avec des choses qui sont importantes et urgentes, des choses qui sont pas du tout importantes et pas du tout urgentes, là, ça va assez bien. On sait à peu près où se situer, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Il y a des choses qui sont urgentes mais pas importantes. Il y a des choses qui sont importantes mais pas urgentes. Alors, à partir de ça... je vous l'ai découpé, j'ai fait, pour ceux qui ont les notes de l'émission, un espèce de graphique et qui divise en fait dans les quatre choses. On va commencer tout de suite par les choses importantes et urgentes. C'est, selon l'article, pour définir qu'est-ce qui est important et ce qui est urgent, il y a trois questions que j'ai bien aimées que je vais vous lire. Alors, qu'est-ce qui est important et urgent? L'action à réaliser a-t-elle un impact majeur sur la satisfaction de mon client? A-t-elle un impact majeur sur la santé financière de l'entreprise, sur son image, sur les obligations légales qu'elle doit remplir? Grosso modo, là on parle de client, mais ça peut être votre emploi, ça peut être votre employeur, ça peut être votre compagnie, hein, vous comprenez un peu ça. J'aime bien utiliser l'expression « est-ce que ça saigne ?» Effectivement, avec ça, quand on sait « est-ce que ça saigne ?» Si on répond oui à ça, c'est que probablement c'est important et urgent et qu'il faut s'en occuper. Grosso modo, je vous dirais qu'en développement personnel, on essaie de faire les tâches pour lesquelles il y a une plus-value. Okay? Il y a des tâches pour lesquelles qui sont importantes pour vous ou pour votre entreprise ou pour votre développement à vous. Grosso modo, ces tâches importantes et urgentes-là, je vous dirais de les faire et d'agir immédiatement, ne pas attendre. C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir dans la matrice d'Eisenhower. Dans la continuité de la matrice, les choses qui sont urgentes, oui, mais pas importantes, ça, généralement, c'est des choses qui sont pour vous... des choses importantes et pas urgentes. Je viens de dire quoi, là? Là, j'ai fait important et urgent. OK, on se recentre. J'ai fait important et urgent. C'est ça l'essentiel qu'il faut faire. On va aussi, toujours dans le niveau de priorité, je vous dirais, dans cette matrice-là, les choses importantes, mais pas urgentes. Ça aussi, ces choses-là, vous devez les faire. Mais vous ne devez pas les faire tout de suite, parce que ce n'est pas urgent. Dans le texte de efficacité professionnelle, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Planifier dans l'agenda des rendez-vous pour vous-même, pour traiter de préférence le matin avant d'ouvrir votre boîte mail, avant d'ouvrir votre boîte de courriel. » Fait que les choses importantes, urgentes, vous les faites tout de suite. Les choses importantes, pas urgentes, vous vous en occupez aussi, mais vous les planifiez dans votre agenda pour pouvoir bien les faire, OK? Pour pouvoir être totalement concentré à ça. Ça, c'est les choses qui sont importantes pour votre entreprise, pour vous, pour votre carrière. Ces deux tâches-là, je vous dirais, c'est des incontournables. C'est ce qui va un peu rythmer vos journées de travail. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans la problématique de ce qui est important et urgent, et on fait tout le temps des choses importantes et urgentes. Il faut vraiment, vraiment être capable de distinguer des choses qui peuvent attendre, des choses qui ne peuvent pas attendre. C'est là où vous allez voir l'urgence. On a fait les deux points les plus importants pour vous. Maintenant, on va tomber sur des tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Ben, si possible, essayez d'éliminer ça. Vous n'avez pas besoin de faire ces tâches-là parce qu'elles ne sont pas urgentes ni importantes. Et quand on parle de ça, c'est toujours avec la matrice, en fait, toujours avec le comment je dirais? Je cherche mes mots. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des podcasts. Quand c'est pas important et quand c'est pas urgent, c'est toujours sur l'œil de votre développement d'entreprise, c'est l'œil de votre développement de carrière, ainsi de suite. Alors, si possible, éliminez ces tâches-là, elles n'ont aucune valeur ajoutée pour vous. Si possible, éliminez ce genre de tâches ou réservez-les pour les moments où il n'y a vraiment plus rien à faire. Parce que des fois, sous des aspects pas importants ou pas urgents, ben, ils ont quand même une certaine importance. Mais essayez de les éliminer si vraiment vous ne pouvez pas. Gardez-les, mais pour des périodes vraiment creuses. Il nous reste la quatrième catégorie, la dernière. Elle n'est pas importante, mais urgente. Dans le texte de efficacité professionnelle, il nous donne des pistes de solutions pour désarmer ça par rapport à nos clients. Okay? Des choses qui ne sont pas importantes, mais urgentes. À chaque nouvelle demande, il faut s'interroger qui d'autre pourrait les faire. Ça, on peut les déléguer. Okay? On peut essayer de ne pas les faire. On pourrait réaliser cette tâche. Qui pourrait réaliser cette tâche mieux que nous? Si on n'est pas capable, à ce moment-là, il y a plusieurs sous-questions qu'on peut poser. Si quelqu'un arrive qui vous dit « faut le faire, mais que c'est pas urgent », on peut répondre facilement par « je peux te voir dans 5 » Si quelqu'un vient te voir et dit « je peux te voir dans 5 minutes », tu dis « oui, bien sûr, est-ce que ça peut être à 11 heures ?» En fait, la question, c'est « je peux-tu te voir 5 minutes ?» Et puis vous répondez « oui, bien sûr, à 11 heures ». Ce qui fait que ça désarme les gens qui essayent de mettre une urgence, qui essayent de mettre une importance à des choses qui ne le sont pas et qui essayent de mettre aussi une urgence à des choses qui ne le sont pas. Si vous n'êtes pas capable de les déléguer, hein, ces tâches-là, là, je les rappelle, là, c'est très, très important, les choses qui ne sont pas importantes, mais urgentes. Elles grugent du temps, ces choses-là, mais des fois, il faut les faire. Alors, essayez de les déléguer. Si vous n'êtes pas capable de les déléguer, à ce moment-là, essayez de désarmer l'urgence par rapport à vous ou par rapport à la personne qui vous le demande. Parce que des fois, les choses ne sont pas importantes et pas urgentes par rapport à vous, mais elles le sont pour un collègue ou elles le sont pour un patron. À ce moment-là, si elles le sont pour votre patron, ben là, elles remontent en importance dans la grille. Peut-être que ça devient important. Mais on va résumer. Si ce n'est pas important et urgent, essayez de déléguer le plus possible. Je vous ai fait une matrice. Alors évidemment, c'est assez simple. Les quatre appels, si c'est urgent et important, faire, agir immédiatement. Il faut que vous le fassiez, vous. Si c'est urgent mais pas important, vous déléguez. Ne pas tomber dans le panneau des gros risques de perte de temps avec ces choses-là. Si ce n'est pas urgent mais important, essayez de les planifier. Ça demande la réflexion, ce genre de tâches-là. Et pour terminer, tout ce qui n'est pas urgent et pas important, ben essayez d'éliminer. Et si vous y êtes vraiment obligé, ben essayez de réserver ça à des périodes creuses si vous en avez. C'était un peu la matrice d'Eisenhower que je voulais vous expliquer. Évidemment, là, on tombe dans la pause. Et la pause, j'aimerais vous, vous rappeler que vous pouvez m'encourager dans toutes les productions que je fais. Si vous voulez voir tout ce que je fais, vous allez sur profduweb.com, profduweb.com. Ben, je fais l'Eclectic Show, je fais le M-Podcast, je fais maintenant des l'Eclectic Show en format YouTube, en format vidéo. J'ai essayé, en toute transparence, de les faire en même temps que de l'enregistrement, mais ça devenait assez désagréable pour les gens qui écoutent, et c'était à moyen pour les deux. Alors maintenant, je les sépare, les deux, mais je mets l'importance toujours sur la version audio. Alors, si vous voulez m'encourager dans mes productions, soulager certaines de mes dépenses, des factures de fonctionnement, ou simplement me payer un café, hein, me remercier par rapport à ce que je fais, vous pouvez le faire sur Tipeee. C'est très simple, vous allez sur ma page, dans les notes d'émission, vous cliquez. Vous pouvez faire une inscription, ouais, ça prend grosso modo 2 minutes maximum. Et puis, si vous avez déjà un compte, ben, c'est 2 clics pour le faire. Vous pouvez prendre les montants qui sont inscrits ou vous pouvez définir vous-même votre montant. C'est pas vraiment, vraiment très, très... très, très important de suivre les montants qui sont indiqués la minute que vous voulez m'encourager. Ben, ça me fait déjà énormément plaisir. Je vous remercie beaucoup, mais sachez que vous pouvez aussi m'aider de d'autres manières. Concrètement, vous pouvez m'aider en mettant 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très important. 5 étoiles avec un commentaire. Je vous dirais que c'est ce qui nous aide à nous faire ressortir dans les classements de podcasts. iTunes, c'est pas le meilleur, mais c'est quand même le plus gros encore et celui qui draine plus de la moitié du trafic au niveau des podcasts. Alors, merci, si vous l'avez pas fait, de le faire. Je sais que ça prend du temps. Même des fois, j'écoute des YouTubers qui supplient les gens de mettre un pouce bleu. C'est juste un clic. Là, je comprends que sur iTunes, c'est quand même un petit peu plus dur ou un petit peu plus long à faire. Mais si c'est un peu plus dur et un peu plus long à faire et que vous voulez quand même m'encourager, il y a une autre façon. Partagez le lien des émissions quand elles sortent à vos amis, à vos collègues sur Twitter, retweetez un simple retweet des fois de ce qui est publié à partir de mon compte principal et ça va m'aider beaucoup. Les services à essayer cette semaine. J'avais, si vous avez écouté ReLife et que vous me suivez dans cette autre émission-là, j'ai parlé beaucoup de protection au niveau des données personnelles. J'en parle aussi dans l'Eclectic Show. Mais là, je vous dirais que j'ai un service à vous proposer. Ça s'appelle... je recherche le nom. Ils étaient dans mes... Metafo Remove Metadata. Metafo, c'est une application qui est sur iOS, mais il y a des équivalents sur Android, qui va supprimer les métadonnées dans une photo. Si vous ne le savez pas, dans une photo, il y a plusieurs données cachées que vous ne savez peut-être même pas que vous partagez. Typiquement, évidemment, le type d'appareil que vous utilisez pour prendre la photo, d'autres données au niveau du fichier, mais aussi des données au niveau de votre géolocalisation et de votre heure d'emplacement où vous l'avez prise. Typiquement, ça met exactement sur une carte Google où vous avez prise, pour faire une image, là, où vous avez prise votre photo et quand vous l'avez prise. Si une personne vous suit depuis longtemps, ça va donner beaucoup d'informations à cette personne-là. Typiquement, si elle recule dans vos photos, elle va être en mesure de voir que vous avez prise des photos de chez vous, va connaître exactement votre adresse, parce que ben maintenant, les téléphones ont une précision au niveau des GPS assez, assez incroyable de quelques mètres. Alors, elle va savoir où est votre maison. Elle va être aussi en mesure de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre maison. Et si vous avez la bonne ou mauvaise idée, en fait, de prendre des photos de vacances et de les publier aussitôt, ben elle va savoir que vous n'êtes plus dans votre maison. Alors, ça, c'est un cas typique d'utilisation des données personnelles à votre insu. Évidemment, il y a d'autres cas dramatiques, comme des gens qui sont typiquement malades ou qui ont dit à leur employeur qu'ils n'étaient pas présents et puis qui publient une photo dans un endroit pris dans un autre contexte différent. Et là, ben évidemment, si on peut faire le suivi de ces données-là, ben on peut savoir où est la personne. Vous voyez un peu le genre de délire dans lequel on peut arriver facilement. Alors, bien important de supprimer ces métadonnées-là lorsque vous les publiez sur Internet. Je sais que c'est une étape supplémentaire lorsque vous publiez, quand vous partagez. C'est un peu plus compliqué, mais ça va quand même vous prévenir de certains problèmes. On le sait, les données personnelles, en ce moment, c'est la croix et la barrière, comme on dit, pour les conserver comme il faut. Il faut avoir le plus de contrôle. On a perdu totalement le contrôle. Il y a de plus en plus de piratage aussi dans les services dans lesquels vous utilisez. Alors, faites attention. Metafo peut supprimer quand même beaucoup de vos données, en fait toutes les données personnelles, et vous pouvez aller de manière très très granulaire dans ce que vous supprimez. Pour ceux qui ont les notes de l'émission, il y a aussi une fonctionnalité dans les options de macOS qui est lorsque vous partagez dans les fonctions générales, dans les images et photo library, vous pouvez retirer dans les métadonnées, vous avez une option qui s'appelle metadata, inclure la location, l'information quand vous publiez, vous pouvez la supprimer. Ça peut aussi vous aider. Au niveau de Windows, je n'ai pas fait la recherche, mais j'imagine qu'il y a des utilitaires qui le font. Je voulais juste vous parler, grosso modo, de faire attention à ça. Et si ça vous donne l'idée de le rechercher pour Android et pour Windows, ben au moins, ben, l'important aura été fait, même si vous n'avez pas d'Apple ou de iOS. Une réflexion sur le blog de Thibaut. Thibaut est un streetcaster que j'utilise, que j'écoute très souvent, et il a décidé de recommencer à écrire dans son blog, que j'aimais aussi. C'est un blog tech, geek un peu, et une réflexion assez intéressante sur... De plus en plus, il y a des services, vous le remarquerez vous aussi, qui se transforment en services mensuels, alors que c'était des... Ben, typiquement, toute la suite Adobe, ben, à la place d'acheter Photoshop maintenant, ben, vous la consommez mensuellement. Vous ne pouvez plus acheter Photoshop tel quel, il faut payer un forfait mensuel. Mais il y a de plus en plus de services qui sont comme ça. Exemple, Evernote, on l'a entendu, ça a beaucoup brassé dans l'actualité avec Evernote, où le service de base a été resserré, est un peu plus restrictif et vous force de plus en plus à utiliser des services mensuels. Il y a de plus en plus de compagnies qui font ça. Si vous consommez leurs produits, que vous utilisez totalement ça, ben c'est bien, mais il y en a d'autres aussi qui étaient à l'achat uniquement et qui deviennent mensuels et ça commence à être vraiment emmerdant et on commence à accumuler des sommes mensuellement de forfaits assez incroyables. Dans son article, Thibaut parle qu'il a Adobe, il a Day One, il a Evernote, il a Ulysse, il a Spotify et ainsi de suite. Et ça commence à faire des gros, gros, gros montants. Le but de vous mentionner son article qui est sur thibaud.be, le but qu'il y a en arrière de ça, d'en parler dans l'Eclectic Show, c'est vérifier tous les services que vous avez souscrits. Pas le Tipeee de Mathieu. Non, non, le Tipeee de Mathieu, vous le gardez. Ça, c'est important. Mais il y a peut-être d'autres services que vous utilisez absolument pas et que vous payez mensuellement. Il y a aussi l'inverse. Dans la réflexion de Thibaut, le titre de son blog post, c'est « Ulysse, tu n'auras pas mes sous » parce qu'il utilise un service Ulysse qui est devenu mensuel et il en est peu content. Il est pas content de ce revirement-là. Le but d'échanger avec vous par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi des services qui sont mensuels, mais qui en valent la peine. Typiquement, moi, j'utilise... je vais regarder sur mon bureau, c'est quoi le nom de ce service-là qui me revient beaucoup moins cher. Ah ouais, c'est ça. Manycam. La compagnie Manycam, dernièrement, a mis à jour sa politique forfaitaire et c'est plus des logiciels que vous payez une fois et que vous réutilisez et ça finit là. C'est vraiment des applications que vous pouvez maintenant payer à gros prix. Alors, exemple Manycam. Dans l'exemple de Manycam, je vais vous faire là, typiquement, là, ça coûte 50$ et c'est un paiement unique. Ou vous pouvez le payer 15$ par année. Dans le cas de Manycam, c'est bien important de vérifier le nombre de versions qu'il y a par année, parce qu'ils sont très, très productifs chez Manycam. On est tombé de la version 4, la version 5, la version 6 dans les 5 dernières années. Alors, si vous faites le calcul, moi, il a fallu que je passe de la version 4 à la version 5, que je paye l'update qui m'a coûté une vingtaine de dollars, que la version 5 à la version 6 qui m'a coûté aussi une vingtaine de dollars. J'ai décidé de, finalement, d'y aller avec un forfaitaire annuel à 15$ par mois qui m'en revient au final moins cher que si je fais le suivi tout le temps des grosses des suites de mise à jour annuelles. Fait que par rapport au blog post de Thibaut, Oui, il y a beaucoup d'applications qui deviennent avec des tarifs mensuels ou annuels, mais il y a des fois des économies que vous pouvez faire grâce à ces choses-là. Alors, c'est toujours du cas par cas. Je dirais pas que toutes les compagnies qui passent maintenant à du forfaitaire, à des abonnements, sont achetés par la fenêtre. Il faut vraiment faire du cas par cas parce que, exemple, dans mon exemple à moi, Manicam, ça vaut beaucoup plus la peine de le prendre annuellement à 15$ que de prendre les mises à, de l'avoir acheté une fois à 50$ et de payer tous les mises à jour 20$ par année. À chaque, parce que, évidemment, la compagnie fait beaucoup de mises à jour. Et très productive. Je voulais vous amener sur cette piste de réflexion-là. Si vous avez échangé par rapport à ça, ben, n'hésitez pas, profduweb.com, et on va échanger sur les applications qui deviennent forfaitaires et qui ne sont plus un achat unique. Une application que je voudrais vous recommander d'acheter cette fois-ci, celle-ci ne pas tomber dans un mode forfaitaire, et les mises à jour sont très très rares. Alors vous pouvez vous permettre d'acheter l'application, ça s'appelle Total Recorder. Qu'est-ce que c'est Total Recorder? Ben, c'est une application Windows qui vous permet d'enregistrer tout l'audio qui sort de votre ordinateur de manière très simple. Et notamment permet aussi d'enregistrer les conversations Skype, les conversations Messenger, les conversations Hangout, et ainsi de suite, de manière très très simple et de qualité. Aussi, elle a l'avantage que, pour ceux qui connaissent un peu l'audio, de séparer par piste les voix. Alors, typiquement, vous parlez avec quelqu'un sur Skype, vous partez Total Recorder et vous allez pouvoir enregistrer par piste votre voix à vous et votre interlocuteur, ce qui permet de corriger peut-être juste une piste, juste votre interlocuteur ou juste vous. Alors ça, c'est super agréable. L'application Total Recorder est à, je vais aller vérifier le prix, est à 17$, la version complète. Il y a d'autres versions, je vous épargne un peu les versions, mais il y a la standard, la professionnelle, la vidéo pro. La vidéo pro, je ne l'ai pas achetée encore, mais elle me tente parce qu'elle permettrait d'enregistrer des flux vidéo, mais pas du screen recording, pas de l'enregistrement d'écran, mais vraiment d'enregistrer le flux entrant. Alors, je vous dis, Total Recorder Audio est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Peut-être que Vidéo Pro Édition aussi est pas mal bien fait. Mais ceux qui veulent enregistrer des sessions pour des podcasts ou même tout court, vous faites de la visioconférence, vous faites des appels conférences, des choses comme ça, vous voulez avoir, garder des traces, vous cherchez une application sur Windows qui est vraiment bien faite, qui est pas chère et qui sauvegarde de manière très propre, Total Recorder. Sur Mac, vous avez Carl Recorder qui fait l'équivalent de ce que je viens de vous dire. Sur Linux, j'ai complètement oublié le nom que j'utilise l'application, mais il y en a une application, évidemment, elle est gratuite. C'est plus pour les versions, les distributions Ubuntu. Si vous me pingez sur Twitter, je vais vous la dire. Mais pour Windows, je vous recommande fortement Total Recorder. Et j'ai acheté la dernière version il y a 4 ans maintenant et il y a eu que des petites mises à jour mineures, alors vous n'allez pas jeter du tout votre argent par les fenêtres. L'application à télécharger de la semaine, je vous la recommande pour ceux, et là, il arrive tout le temps des périodes dans la vie où on doit faire, où on doit prendre des décisions, et on aimerait que ces décisions-là soient basées sur des éléments très rationnels. OK? Quand on dit on va faire la colonne des plus et des moins, ben cette application-là est exactement l'équivalent de cette expression-là, faire le plus, le pour et le contre d'une situation. Mais elle est vraiment, vraiment bien faite. Comment ça fonctionne? Ben, grosso modo, vous avez une décision à prendre, vous ajoutez votre décision. Achat, exemple pour moi, d'une moto. Deuxièmement, vous mettez des critères par rapport à votre achat de moto. Évidemment, faites le parallèle à d'autres choses, là, je ne sais pas moi, faire un voyage ou changer de carrière ou des. Vous voyez, vous avez une décision à prendre. On va prendre toujours l'exemple de la moto. Alors, première affaire, j'ai dit acheter une moto. Deuxième point, ajouter les critères. Tous les critères qui sont importants pour vous. Confort de la moto, rapidité de la moto, économie de la moto, prix de la moto, et ainsi de suite. Assurance et ces choses-là. Par la suite, vous allez quantifier tous ces critères-là, qu'est-ce qui est le plus important de 1 à 5? qui est le maximum. Alors, exemple, confort de la moto, peut-être pour moi, ça va être 4. Économie, peut-être pour moi, le prix de l'essence, une moto, tout ça, bon, ça va peut-être être 2, c'est important, mais c'est pas un maximum, et ainsi de suite. Et après ça, vous allez ajouter, dans mon exemple, je reprends mon exemple, toutes les motos que vous voulez acheter. Et là, vous allez dire, bon, mais c'est cette moto-là, elle consomme beaucoup, celle-là, elle consomme moins, celle-là est plus confortable, et ainsi de suite. Et automatiquement, ça va vous donner un tableau tout ordonnancé en vous disant, ben, d'après tes critères, d'après l'importance de tes critères, et d'après tout ce que tu as décidé de choisir, de sélectionner avec ces critères-là, ben, voici l'ordre de priorité et voici, de manière très rationnelle, ce que tu dois prendre. Ça s'appelle « decision ». Ça coûte 2$, ben 3$ au Canada. Pour le moment, ça doit être 2,50€ chez vous en Europe. Ça s'appelle « Best Decision ». Ça a été fait par Lucas Kowalski, un très bon développeur. A remporté plusieurs prix, cette application-là. Et il y a 40 000 downloads, plusieurs étoiles. Franchement, 5 étoiles. C'est l'application qui va vous permettre de faire le pour et le contre lorsque vous avez des décisions à prendre. Et je vous la recommande vraiment chaudement. C'est pas, vous n'allez pas mettre ça dans le feu. Et toutes les décisions, toutes les grilles de décisions, vous allez pouvoir les sauvegarder, les partager après. Si vous faites si vous avez des fois beaucoup de choix à prendre et que vous voulez mettre ça de manière cartésienne et rationnelle, c'est l'application qu'il vous faut. La bonne nouvelle de l'émission, j'ai décidé de vous mettre une bonne nouvelle à chacune des émissions parce que je trouve ça important qu'on parle de positif, que le positif circule. Je sais que c'est pas très populaire, en fait ça l'est pas du tout sur Internet, mais je vais quand même essayer de partager une bonne nouvelle à chaque émission. Et là, pour la première fois de l'histoire, la moitié des personnes qui sont atteintes du VIH sur la planète ont pu réussir à avoir un traitement. Alors maintenant, de tous ceux qui ont tous ceux qui sont atteints du VIH, plus de la moitié des gens maintenant réussissent à avoir un traitement. Ça, c'est vraiment très bon pour l'humanité. Et aussi, on a diminué de plus de la moitié depuis 2005 les cas de décès par rapport à ce virus. Alors, vraiment, très bonne nouvelle. Ça vient de Science Mag, cette bonne nouvelle-là. Deuxième bonne nouvelle, là, on va revenir un petit peu dans le moins... Dans le plus Mathieu, le moins philosophique. Apparemment, que la bière, selon les scientifiques, que la bière réduirait la douleur. Alors, évidemment, vous ne vous mettez pas complètement bourré, mais selon une recherche qui a été faite sur 404 participants en décembre, il y a quelques mois, on a expérimenté 18 en fait, problématiques que les gens subissaient. Et ils se rendaient compte que entre le Tylenol ou l'aspirine, des fois, juste la bière amoindrissait la douleur. Vous prenez ça avec un grain de sel, évidemment, ce que je dis là, parce que c'est une bonne nouvelle drôle. Vous aurez ça dans les notes de l'émission pour ceux qui y sont abonnés. Ben voilà, ça fait le tour de l'Eclectic Show de cette semaine. Pour me rejoindre, rien de plus facile. Vous allez sur profduweb.com dans la section Contactez-moi. Vous pouvez directement m'écrire par le formulaire. Ça sera pas public. Vous pouvez réagir à tout ce que j'ai dit directement dans les notes de l'émission. Appuyez sur le bouton réagir, le lien réagir. Vous allez arriver directement dans les commentaires. Vous pouvez échanger, évidemment, je vous dirais d'aller vous abonner à la page Facebook. J'ai une page Facebook. Je mets du contenu, je mets beaucoup de contenu. Si vous voulez voir les envers du décor, ben je les partage ici. Si vous voulez connaître les envers du décor de l'Eclectic Show ou de ReLife, que vous aimez ce que je dis, que vous voulez connaître un peu la culture d'ici québécoise, des choses comme ça, ben abonnez-vous au M Streetcast sur iTunes ou sur tous vos bons lecteurs de podcasts. Faites une recherche dans les lecteurs de podcasts, écrivez prof du web, vous allez avoir tous mes podcasts auxquels je participe et vous allez sélectionner le M Streetcast. Je vous rappelle vos devoirs pour cette semaine, d'apprendre, d'aimer puis de partager, c'est ça vraiment vraiment l'essentiel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao ciao.